Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici l'histoire de la séquestrée de Poitiers, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, en 1901. L'histoire de Blanche Monnier, malade mentale, que sa mère a enfermée pendant 25 ans dans sa chambre, volet fermé, nue et vivant sur ses excréments. Toute la ville était au courant, mais personne n'a jamais osé intervenir. La mère a-t-elle enfermé Blanche parce qu'elle était malade mentale? Ou est-elle devenue malade mentale parce que sa mère l'a enfermée? J'ai écrit cette histoire en m'appuyant largement sur le livre de Jean-Marie Augustin, L'histoire véridique de la séquestrée de Poitiers, chez Fayard. La réalisation de cette histoire est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Au matin du 23 mai 1901.
Monsieur le procureur, tenez un courrier pour vous.
Une lettre anonyme arrive sur le bureau du procureur général de Poitiers. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous dénoncer un fait d'une exceptionnelle gravité. Il s'agit d'une demoiselle qui est enfermée chez Madame Monnier, privée d'une partie de nourriture, vivant sur un grabat infect et en un mot dans sa pourriture depuis 25 ans. Signé, un compatriote indigné. Pour être honnête, ça n'est pas la première fois que le procureur de Poitiers entend parler de ce cas. Ça fait quelque temps en effet qu'on dit en ville qu'une fille de bonne famille vit recluse. Mais on dit qu'elle est folle à lier et que sa mère Louise Monnier ne fait que la protéger. Alors jusqu'ici, on s'en est tenu à cette version. Le procureur n'a pas bougé. Les Monnier étant par ailleurs une famille fort honorable. Mais là, il y a une lettre. Et le procureur se dit qu'il serait peut-être temps de cesser de faire l'autruche. Et donc il confie au commissaire central de Poitiers, Pierre Bucheton, une enquête. Et l'après-midi même, le commissaire se présente chez les Monnier, au 21 rue de la Visitation. Belle maison, hein ? Presque un hôtel particulier. Et quand le commissaire lève la tête, il remarque tout de suite une fenêtre dont les volets sont clos, la seule qui soit fermée au deuxième étage. C'est la bonne qui lui ouvre. « Madame Monnier, je vous prie. »«
Madame Monnier ne reçoit pas, elle est alitée. »«
Veuillez, je vous prie, dit la Madame Veuve Monnier, que je suis commissaire principal de police, et que je désire absolument lui parler. »
Un commissaire, normalement, ça impressionne. Mais pas Madame Veuve Monnier.
« Monsieur le commissaire, Madame ne peut pas vous recevoir. Elle vous prie de vous adresser à son fils. Il habite juste en face, là, vous voyez ?»
Bon, va pour le fils. Le commissaire traverse la rue, il sonne, et il s'entend dire par la bonne du fils.
Ah, c'est que Monsieur Monnier est indisposé.
Décidément, chez ces gens-là, tout le monde est indisposé. Il insiste, il menace peut-être un peu, et finalement, Monnier fils consent à le recevoir.
Bonjour, monsieur. Voilà, je suis ici parce que une lettre anonyme dénonce madame votre mère comme séquestrant votre sœur. On nous dit qu'elle serait au lit depuis 25 ans au milieu d'une pourriture infecte.
Ah, mais j'ignore tout ce que vous me dites, monsieur le commissaire.
Ce qui est embêtant, c'est que cette lettre dit que la fenêtre de la chambre de votre sœur est cadenassée. Or, justement, je vois qu'au deuxième étage se trouve une fenêtre dont les persiennes sont closes. Voudriez-vous me mettre en présence de votre sœur, monsieur?
Écoutez, je suis tout à fait étranger à tout cela. Ma mère et ma sœur habitent ensemble dans une maison qui est là, vous la voyez, qui n'est pas la mienne. Et je ne puis pas vous autoriser à voir ma sœur si le docteur n'y consent pas.
Écoutez-moi bien, monsieur. Cette lettre porte une accusation grave. Amenez-moi auprès de votre sœur, s'il vous plaît. Ou pas, d'ailleurs.
Marcel Monnier accompagne le commissaire chez sa mère, en face, laquelle monte tout de suite sur ses grands chevaux. Mais c'est un commissaire, elle n'a pas le choix. Et d'ailleurs, il est déjà dans l'escalier, il est en route pour le deuxième étage, là où il a vu le volet fermé. Et le fils lui emboîte le pas. Et arrivé devant la porte,
Vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît.
Le fils ouvre. Le commissaire fait un pas dans l'obscurité.
Il a une odeur, une odeur. Il ressort tout de suite. Il est au bord de vomir.
Il prend un peu d'air frais. Il bloque sa respiration et il rentre à nouveau dans la chambre. Et la première chose qu'il voit, c'est la chaîne qui maintient les volets cadenassés.
C'est une précaution, hein. C'est pour éviter que ma sœur ne se jette par la fenêtre.
Sa sœur, justement. Elle est là, dans un angle de la chambre, sur un tas d'immondices, une silhouette humaine enfin, à peine humaine, ratatinée, recroquevillée, décharnée. Le commissaire file dardard au palais de justice prévenir le procureur. Et il revient une heure plus tard avec un juge, le juge Dufresnel.
Vous allez voir, c'est absolument insupportable, hein, monsieur le juge. Hein. Jeune homme, vous pourriez ouvrir les persiennes, s'il vous plaît.
Avec la lumière du jour, la scène est terrifiante. Voilà ce qu'il écrira dans son rapport. Nous apercevons dans le fond, étendu sur un lit, le corps et la tête recouvertes d'une couverture d'une saleté repoussante, une femme que Marcel Monnier nous dit être Mademoiselle Blanche Monnier, 52 ans, sa sœur. La malheureuse est couchée, toute nue sur une paillasse pourrie. Tout autour d'elle s'est formée une sorte de croûte, faite d'excréments, de débris de viande, de légumes, de poissons et de pain en putréfaction. Des bêtes courent sur le lit. Nous lui parlons, elle pousse des cris. La maigreur de Mademoiselle Monnier est effrayante. Sa chevelure forme une natte épaisse qui n'a point été peignée et démêlée depuis longtemps. L'air est tellement irrespirable, l'odeur qui se dégage de l'appartement est tellement fétide, qu'il nous est impossible de rester plus longtemps pour procéder à d'autres constatations. Dans la chambre, le juge prend les choses en main.
« Oh mon Dieu, enroulez-la immédiatement dans une couverture, s'il vous plaît, et emmenez-la à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, et vite, hein !»
Et c'est au moment où on l'emmène que le juge s'aperçoit qu'elle sait parler.
« Oh, faites ce que vous voulez, mais m'enlevez pas ma chère petite grotte !»
À l'Hôtel-Dieu, on lui coupe les cheveux. Ou plutôt, on lui coupe la grosse natte immonde qui lui sert de chevelure. Et on la met sur une balance. La natte de cheveux crasseux pèse 25 kilos. On va la garder, tiens, comme pièce à conviction. Pendant ce temps-là, le juge est toujours sur place.
Monsieur Monnier, je vous prie, vous pouvez me montrer le reste de la maison ?
La maison est bien tenue. Il y a des lits en veux-tu en voilà, inutilisés. Il y a des draps propres à profusion. Donc si elle est dans cet état, c'est qu'ils l'ont voulu.
Bon, il va falloir nettoyer cet endroit, c'est une infection.
Mais avant, le juge fait mettre dans des bocaux tous les insectes qui grouillent dans la paillasse. On en remplit un plein bocal. Il note aussi qu'il y a deux trous au mur qui permettent la circulation des rats. Et il remarque enfin qu'il y a un deuxième lit dans la chambre, bien tenu celui-là, avec des draps bien propres.
À quoi sert donc ce lit ?
C'est pour Eugénie, la domestique. Elle dort là pour veiller sur Blanche toutes les nuits.
Le lendemain, le commissaire est de retour avec un mandat d'amener. Le juge lui a demandé d'arrêter et le fils et la mère, et de les mettre en prison. Quand elle franchit le soir même les portes de sa cellule, la mère, Louise Monnier, 75 ans, déclare
« Oh, est-il possible de faire tant d'affaires pour rien ?»
Dans les jours qui suivent, le juge fait venir les deux bonnes des Monnier, Juliette et Eugénie. Elles vivent au cœur de la maison, elles savent.
Oh ben, je vous jure que Mademoiselle Blanche est bien nourrie. Ah ça oui, on lui porte de tout. Mais elle mange pas grand-chose. Le soir, elle mange qu'une brioche ou moi un gâteau, et le matin, rien qu'une tasse de chocolat. Elle veut jamais de pain. Par contre, le midi, il y a souvent une sole frite ou une côtelette entourée de pommes de terre. Là, elle mange, mais avec les doigts.
Et concernant la propreté, mademoiselle?
Oh, ça, on n'a jamais été vraiment d'accord, hein. On a souvent demandé à Madame Monnier de quoi changer blanche. Elle a toujours refusé. Alors que ça aurait été facile de lui faire sa toilette. Je vais vous dire, nous-mêmes, on a demandé à Madame de placer Mademoiselle Blanche dans une maison de santé. On l'a fait plus d'une fois. Elle nous a toujours répondu qu'elle avait fait le vœu de rester avec sa fille jusqu'à la mort.
Le juge apprend à l'occasion que la lettre anonyme, c'est grâce à Juliette, la bonne. Juliette a un bon ami, un militaire, et un jour elle lui a parlé de Blanche. Et comme il ne la croyait pas, un soir tard sur la pointe des pieds, elle l'a emmené la voir. Et le bon ami militaire ne s'en est pas remis. Le lendemain, il en a parlé à son lieutenant. Et c'est ensemble que son lieutenant et lui ont écrit la lettre anonyme. Que fait le juge après avoir entendu les bonnes? Il ordonne qu'on lui amène la mère, Louise Monnier. Et là, il faut que je vous explique quelque chose. La mère elle-même vit claquemurée dans sa maison depuis 10 ans. Elle ne voit personne. C'est une vieille folle, une vieille folle. Le juge néanmoins lui demande de s'expliquer.
Oh, jamais je n'ai songé à séquestrer ma fille. Je l'aimais tant. Elle a toujours été libre de circuler dans la maison. La vérité, monsieur le juge, c'est que depuis 25 ans, elle s'est volontairement enfermée dans sa chambre. Je dirais même dans son lit. Elle s'est obstinée à rester dans son lit depuis 1876. Peut-être même avant. Malgré mes efforts et ceux de mon mari pour lui faire prendre l'air.
Elle dit que sa fille est malade. Pas depuis toujours, hein. Petite, ça allait bien. Elle a fait des études, elle aimait la lecture. La mère dit que ça s'est dégradé d'un coup vers ses 23 ans.
En 1872, je crois, ma fille a été atteinte d'une fièvre pernicieuse très grave. Et depuis lors, elle a voulu voir personne. Elle a refusé de mettre des vêtements, sous prétexte qu'elle n'avait pas la force de les porter. Elle mangeait très peu, elle était extrêmement maigre. Elle ne voulait pas coucher dans des draps, vous voyez, quoi.
L'avez-vous montré à un docteur?
Oui, oui, mais il y a déjà plusieurs années que le médecin ne vient plus la voir.
Et la saleté dans laquelle elle se trouvait, madame?
Mais elle ne voulait pas qu'on la touche.
Les domestiques disent qu'elles vous ont demandé de les laisser la nettoyer et que vous avez refusé.
Oh, monsieur le juge, ce sont des drôlesses, celles-là. Des menteuses, hein.
Elle dit qu'elle rend des visites à sa fille 2 fois par jour, mais que depuis 3 mois, elle est malade, elle n'allait plus du tout la voir. Et là-dessus, elle ne ment pas, elle est malade du cœur. Et d'ailleurs, 15 jours après son arrestation, en prison, elle meurt d'une crise cardiaque. À moins qu'elle ne soit morte de honte. Quand Blanche est arrivée à l'hôpital, on aurait dit une sorcière, avec sa natte, sa crasse, ses ongles gigantesques, une sorcière. Elle pesait 25 kilos à 52 ans pour 1,55 m. C'est pas lourd. Mais depuis 10 jours qu'elle est à l'hôpital, ça va déjà beaucoup mieux. La mère disait qu'elle ne mangeait pas. Elle mange. Elle a pris 10 kilos. La mère disait qu'elle refusait de se laver. Maintenant, elle se lave et elle fait ses besoins dans un seau. En revanche, son état psychique est inquiétant. Son retard intellectuel est béant. Elle écrit à peine. Elle répond aux questions, mais elle n'en pose aucune. Et tout ce qui est à l'extérieur de l'hôpital l'indiffère totalement. À part les fleurs. Elle raffole du parfum des fleurs. Et surtout, elle ne veut plus entendre parler de sa famille.
Voulez-vous revoir votre frère? Qui reste où il est? Mais qui reste où il est? Est-ce que vous étiez bien dans votre maison? Ah, ne me parlez pas de ça, hein.
Cela dit, il lui arrive encore de dire:
ah ben, je regrette bien ma chère petite grotte.
On attend avec impatience l'avis des médecins, qu'on appelle à l'époque des aliénistes. On est en 1901, la psychiatrie est balbutiante. L'expert s'appelle le docteur Lagrange.
Elle ne jouit pas de ses facultés, ça c'est clair. Elle tient des propos extravagants. C'est une aliénée, hein. Il n'y a pas de doute.
Maintenant que la mère est morte, si on veut faire un procès à quelqu'un, absolument, il ne reste plus que le frère. Il dit qu'il ne savait pas, mais les bonnes ont dit qu'il savait. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait? Le juge l'interroge et il confirme en gros ce qu'a dit sa mère avant de mourir. Blanche a périclité à partir de 1872, à la suite, dit-il, d'une fièvre. Elle ne voulait plus sortir de sa chambre, elle voulait rester toute nue. La mère a voulu la garder auprès d'elle. Mais lui, dit-il, aurait voulu la faire interner. Voilà, monsieur le juge. Pensez-vous qu'il va s'en tirer à si bon compte? On est en 1901. Et à cette époque, la presse adore ce genre d'histoire. Des journaux comme le Petit Journal, l'Illustration ou la Fronde en font leur feuilleton quotidien. Il l'appelle la séquestrée de Poitiers, et il ne se gêne pas pour publier en grand, à la une, sa photo en sorcière, avec sa longue natte crasseuse. Vous la trouverez sur Internet, cette photo. Et dans cette affaire, les journalistes vont avoir un rôle, un sacré rôle. Parce que là, on fait mine de tout découvrir en poussant des cris d'horreur. Mais à Poitiers, ça fait des années que ça jase sur le sujet. Des années qu'il se murmure une histoire qui n'a rien à voir, vous verrez, avec ce que nous ont raconté la maman et le petit frère. Une histoire que le plâtrier Théodore Touchard, par exemple, raconte aux journalistes du journal de la Vienne.
Bon ben enfant, mademoiselle Blanche était pétillante, elle était sautillante, ça oui. Et puis à l'âge de 22 ans environ, j'ai remarqué qu'elle a, j'ai pas été le seul, hein, qu'elle se rendait souvent dans l'impasse où demeurait Monsieur Calmeil. Le fils, c'est un avocat. Et quelque temps après, le bruit a couru que Mademoiselle Blanche allait se marier avec ce monsieur Calmeil. Moi, ça m'a étonné. Il était bien plus âgé qu'elle. Il avait 38 ans, et elle 23. Et puis les mois ont passé, et le mariage ne s'est pas conclu. C'est juste après que Mademoiselle Blanche n'est plus sortie de chez elle. Jamais. C'est juste après qu'on l'a plus vue, quoi.
La mère, disent les gens, c'est dans le journal, ne voulait pas que cet avocat devienne son gendre. Et de un, parce qu'il était protestant, pas de ça chez nous, et de deux, parce qu'il était le fils d'un républicain. Les Monnier haïssaient les républicains, depuis toujours. Alors les parents ont dit non, et ils l'ont enfermée, et ça l'a rendue folle. Voilà ce que disent les gens. Mais ils ne disent pas que ça. Ils disent aussi que Blanche serait tombée enceinte de l'avocat. Et qu'on n'a jamais vu le bébé, jamais. Est-ce qu'il est mort? Sans doute. Tué? Mort-né? On ne sait pas, on ne saura pas. En tout cas, c'est après cet épisode que Blanche a été séquestrée par sa mère pendant 25 ans. Elle l'a rendue folle. Elle l'a rendue folle. Mais qui était donc cette femme, la mère, Louise Monnier? L'abbé de la famille, l'abbé Montbron, n'y va pas par quatre chemins.
Oh, c'était une femme terrible, terrible, fantasque, dure, dure, impérative, despote. Mais lui, le père n'était pas en reste, hein. C'est lui, hein, qui a fait sceller les persiennes à l'étage, parce que Blanche se mettait toute nue à la fenêtre. Ça faisait scandale, quoi.
Et ça, c'est confirmé par les bonnes.
Oh, ben, mademoiselle Blanche, elle avait un peu la tocade de rester le bas du corps tout nu. Quand on lui donnait une chemise propre, elle faisait un trou dans le bas, puis crac, elle déchirait le reste par l'embauche jusqu'au bas du ventre. Elle se mettait un morceau de flanelle sur la tête, et sur le dos, elle se mettait une camisole, et puis... Bon, elle allait se promener comme ça, dans le jardin, et elle sautait comme une biquette à travers les allées. Fallait voir ça.
Tous sont d'accord sur un point, Ça s'est aggravé à la mort du père en 1882.
Oh ben, Mademoiselle Blanche, elle voulait pas voir sa mère, hein. Quand elle venait la voir, elle lui jetait son pot de chambre à la figure. Ben alors, Madame Monnier, elle a dit comme ça, ben, si c'est ainsi, je te laisserai dans la saleté.
Au début, la vieille bonne Marie, qui travaillait au service de Madame depuis 45 ans, a tout fait pour la soigner. Les premières années, elle a nettoyé sa chambre tous les jours. Et puis elle a baissé les bras, et voilà comment on en est arrivé là. Le juge commence à avoir une idée assez précise de la longue descente aux enfers de Blanche Monnier. C'est à ce moment-là qu'on ouvre le testament de la mère Monnier. Tous les journaux le publient, parce qu'il est absolument incroyable. La mère Monnier lègue la totalité de ses biens à sa fille, Blanche, tout. Il n'y a rien pour le fils. J'entends que tous les revenus que ma fille recueillera après mon décès soient exclusivement consacrés aux soins qui lui sont nécessaires. Et du coup, la méchante mère Monnier se retrouve moins méchante que prévu. Et du coup, les journalistes retournent leur veste et, faute de pouvoir défendre la mère, ils défendent le fils. Je lis dans Le Matin, par exemple. On ne croit pas que M. Monnier puisse être considéré plus longtemps comme complice d'un crime qui n'existe pas. Le juge, en revanche, a bien l'intention de faire juger le fils Monnier. Il le renvoie devant la chambre d'accusation de Poitiers pour séquestration criminelle avec torture. Il veut la cour d'assises où Marcel Monnier risque la peine capitale. Mais le fils Monnier a les moyens de se payer un bon avocat. Maître Barbier, par exemple, qui rédige un rapport de 96 pages qu'il adresse à la chambre de l'instruction. Il y explique que Blanche était hystérique et anorexique, qu'elle n'était pas séquestrée mais recluse, nuance. Et il joint au dossier une lettre que son frère a écrite à Blanche en août 1882, alors qu'il était en villégiature à Saint-Jean-de-Luz, sur la côte basque. « Ma petite Blanche, j'espère que tu n'es pas malade en ce moment. Soigne-toi bien, prends une robe comme tout le monde, et quand je serai de retour à Poitiers, nous irons faire une promenade ensemble. Ça vaudra mieux que de rester enfermé dans ta chambre. » Et là, il convainc les magistrats de la chambre de l'instruction. Ça ne sera pas la cour d'assises avec la peine capitale en point de mire. Ce sera le tribunal correctionnel devant lequel il encourt 5 ans de prison maximum. Ouf ! Le procès s'ouvre le 7 octobre 1901. Et il faut avoir le cœur bien accroché parce que dans la salle d'audience, on expose les pièces à conviction, les draps souillés de Blanche et la fameuse natte de 25 kilos. La puanteur est telle que le président n'y tient pas.
Emballez-moi tout ça, s'il vous plaît, c'est une horreur.
Et commence le défilé des témoins, qui viennent tous dire que le fils, Marcel, n'avait aucune influence sur sa mère.
Oh ben, elle disait tout le temps, je veux pas qu'il fasse la loi chez moi, vous voyez. Et elle disait aussi, s'il continue, je lui supprime sa pension.
Ce que les bonnes, Juliette et Eugénie, confirment à la barre.
Ah ben, Madame Monnier lui disait, t'es rien ici, va-t'en.
L'avocat de Marcel, Maître Barbier, ajoute par ailleurs que son client est extrêmement myope depuis toujours et qu'il n'a aucun odorat.
Figurez-vous qu'un jour, des amis lui ont fait manger de la crotte de bique saupoudrée de sucre en lui faisant croire que c'était des fraises. Eh bien, il n'a pas vu la différence.
Et un médecin vient confirmer qu'il est myope comme une taupe.
Et il y voit à peine un dixième. Il est vraisemblable qu'il n'ait pas pu voir l'état dans lequel se trouvait sa sœur. Étant donné d'ailleurs que la chambre était assez obscure.
Derrière les culs de bouteille qui lui servent de lunettes, Marcel Monnier lui-même en remet une couche.
Je ne me figurais pas du tout que ma sœur était dans un état aussi effrayant. J'étais loin de le penser.
Vous avez proposé à votre mère de mettre votre sœur dans une maison de santé. Pourquoi ne pas avoir agi, monsieur?
Mais je l'ai fait. J'ai tellement insisté que ma mère m'a mis à la porte. Vous savez, ma mère était maîtresse chez elle. Si je l'ai pas fait, c'est que... Mais je n'ai pas pu le faire.
Et comme il faut un responsable, l'avocat de Marcel rejette tout sur les bonnes.
Les vrais complices! Les voilà, vous les avez là!
Facile! Sauf que plus de 10 témoins viennent dire que les deux bonnes, Juliette et Eugénie, les ont fait entrer en cachette dans la chambre pour qu'ils se rendent compte. Elles ont fait ce qu'elles ont pu. Elles n'étaient que des bonnes. Le 11 octobre 1901, Marcel Monnier est reconnu coupable et il est condamné à 15 mois de prison. Quand Blanche apprend le jugement, elle éclate de rire.
Mais qu'on le laisse où il est, je l'emmerde.
Marcel Monnier fait appel. Un deuxième procès se tient en novembre. Maître Barbier plaide à nouveau.
Cherchez l'acte de violence qu'aurait commis Marcel Monnier. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Et cette fois, la cour d'appel acquitte Marcel Monnier. Il sort de prison le jour même. Et dans la foulée, il touche l'héritage de sa mère. Et il va s'installer à Saint-Jean-de-Luz, où il meurt en 1913, à l'âge de 65 ans. Et Blanche, qu'est devenue Blanche? En juin 1902, elle quitte l'hôpital et elle est internée à l'asile public de Blois, où elle vit seule dans une chambre pendant 11 ans. Elle meurt en 1913, totalement sénile, à l'âge de 64 ans. J'ai écrit cette histoire en m'appuyant sur le livre de Jean-Marie Augustin chez Fayard, l'histoire véridique de la séquestrée de Poitiers.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.